Auditeurs, auditrices, bonjour. Il est très exactement 11h sur Radio Campus Tour. Nous sommes le 28 janvier 2025. Alors, auditeurs, auditrices, très au fait de la vie culturelle locale et nationale, il ne vous a pas échappé que du 23 au 26 janvier se tenaient les nuits de la lecture. Alors, évidemment, vous vous êtes rendu compte que votre radio participait à cet événement via des programmations incroyable, donc des nuits entières sur nos ondes avec des archives de la radio, mais aussi des surprises sonores, des chroniques, des lectures envoyées par nos complices, entre autres les bibliothécaires de la bibliothèque départementale de l'Indre-et-Loire, ainsi que les bibliothécaires des bibliothèques de Tours et alentour. Alors, si vous vous désespérez en vous disant que vous avez tout raté pour cette édition, eh bien, n'ayez crainte. Voilà, quand même, nous sommes bons princes. Alors, on vous fait écouter en ce début d'émission quelques extraits de ces nuits de la lecture. Et je rappelle que devant l'engouement pour cette programmation, eh bien, je m'autorise à faire en février une seconde nuit de la lecture. Voilà, je sais bien que normalement, c'est en janvier. Mais il en est ainsi, je décide qu'en février, il y aura une autre nuit de la lecture sur Radio Campus Tours. Donc n'hésitez pas à nous faire parvenir par mail la lecture d'un texte de votre choix, dans la langue de votre choix, voilà, que vous souhaitez partager sur nos ondes. N'oubliez pas de mentionner qui en est l'auteur et où on peut le retrouver. Voilà, il n'y a pas de restriction, ça peut être le mode d'emploi de votre tante de seconde. Autant qu'un article de recherche, un extrait de roman, une nouvelle, même de votre propre écriture. C'est le moment de partager vos œuvres. Alors, nous allons écouter à présent une proposition des bibliothécaires de la bibliothèque départementale d'Indre-et-Loire, CD37. Et ce sont deux extraits de Colette Hiver, une autrice que j'ai moi-même découvert à cette occasion. Bonne écoute et à tout de suite.
Les lectures vous sont proposées dans le cadre des Nuits de la Lecture qui ont lieu chaque année en janvier. Tous les textes qui sont lus sont dans le domaine public et sont donc libres de droit. Je suis Candice de la Bibliothèque départementale et je vais vous lire un extrait de Princesse de Science écrit par Colette Hiver. Avec son idéal naïf de la femme intellectuelle mariée, elle était entrée crânement dans la vie conjugale et, persuadée de l'excellence de ses vues, elle continuait de concilier, à travers tous les orages, ses rêves de gloire et son amour, se croyant très sage pour donner quelquefois, par habileté, plus à celui-ci qu'à ceux-là. « Madame Lancelevée, finit-elle par dire avec humeur, eut plus de loyauté que toi, voilà tout. » Thérèse, un peu suffoquée, demanda une explication. Une fois de plus, il dégonfla son cœur, redit ses peines passées, montra quel duperie avait été son rôle d'époux. Elle n'avait jamais cherché dans le mariage qu'une diversion aux fatigues d'un métier qui, seul, était son but, sa raison d'être. Et il avait beau, par réserve naturelle, par décence, retenir sa violence, ménager ses termes, il la blessa cruellement. Alors elle prit l'offensive à son tour. J'ai sacrifié, pour une maternité que tu désirais, une thèse qui m'eût classée au même rang que Madame Lancelevée. J'ai renoncé, pour être plus souvent chez nous, à suivre les cliniques de Boussard, les opérations d'Artout. J'aurais désiré faire de la médecine aliéniste dans l'établissement de Janicot. Je ne t'en ai même pas parlé, car Passy, c'était trop loin et tu m'aurais blâmé. Est-ce que je n'aurais pas dû, cependant, m'adonner aussi à la bactériologie ? À défaut d'un laboratoire chez moi, que j'aurais eu cependant sans mon mariage, n'aurais-je pu travailler à l'école, devenir quelqu'un, faire quelque chose ? Si je suis demeurée une doctoresse modeste et ignorée, réduite à me contenter de la clientèle, ce fut la rançon de mon amour pour toi, car seule, sans ma maison à tenir, sans le souci de ton bien-être, sans cette grossesse, sans tes exigences enfin, je compterais un peu aujourd'hui dans le monde médical. Je suis de trop dans ta vie, Thérèse. Notre mariage pèse à tes épaules. Je fus l'obstacle à ta gloire. Veux-tu redevenir libre ? Elle eut un sourire amer. C'est trop tard. Nous sommes mariés pour toujours.
La tradition des épouses d'autrefois est bonne. Elle est vraie. Elle est naturelle. Tout ce qui rejette hors du foyer la vie de la femme est mauvais. Ou bien il faudrait remplacer la vieille théorie du mariage par je ne sais quelle formule de compagnonnage mixte. Elle l'arrêta. Cette formule est précisément très belle, à mon sens, Guéméné. Associer deux êtres égaux, en même temps amants et amis, remédier par un savoir et des fonctions identiques chez l'homme et chez la femme, aux malentendus conjugaux qui dérivaient jusqu'ici d'une disproportion intellectuelle, ne trouvez-vous pas cela louable et utile ? Vous n'en êtes pas, je pense, à nier l'égalité des époux. L'égalité, non, mais la similitude, Thérèse. Je ne dis pas la femme inférieure, je la trouve différente. Et bien que tous vos efforts de femme médecin tendent à vous métamorphoser en jeune homme à jupons, vous demeurez par vos attitudes, vos idées et votre science même d'une autre essence que nous. Mille penchants secrets vous font dissemblables de ceux que vous copiez. Mademoiselle Erling s'indignait sourdement. « Nous ne sommes pas de petites pensionnaires, » reprit-elle. « Vous n'en avez pas moins les éternelles fonctions de la femme. La grande vocation féminine vous entraîne toutes avec la même force, jeune fille naïve ou savante raisonneuse. » Vous avez dans le sang les mêmes dévouements, les mêmes instincts tendres, Thérèse. La nature vous a faite femme avant que vous ayez choisi d'être médecin. Ah ! Comme vous avez bien pris de votre race bretonne l'insupportable respect de la routine, mon pauvre Guéméné. Eh bien, c'est entendu. Laissons les femmes au pot-au-feu ou à leur aiguille et verrouillons solidement la porte, surtout, pour qu'elles gardent leur place au foyer. Mais dites-moi, que faites-vous de l'innombrable armée de filles sans dot, bloquées dans ce foyer d'où vous ne leur permettez pas de sortir, et où vous savez bien pourtant que les épouseurs n'iront point réclamer d'elles l'honneur de les entretenir ? Elles mourront de faim, tout bonnement, mon cher, grâce à vos belles théories. Ma théorie n'est pas cruelle aux femmes, Thérèse. Elle n'est pas non plus entachée de sottises. J'applaudis de tout mon cœur à l'effort de ces vaillantes filles qui, pauvres, chétives, délaissées au milieu de difficultés inouïes dans un travail incessant, luttent magnifiquement pour se faire, malgré leur faiblesse, une place au soleil, en dédaignant l'homme qui les a négligées. Ah, nous en avons vu, vous et moi, à l'école, de ces étudiantes aux canotiers de feutre, à la jupe élimée et aux yeux ascétiques, dont les doigts maigres crayonnaient le cours fébrilement. Plus près de nous, il y a cette petite externe russe, dite Askarov. Est-elle assez admirable avec ses bottines rapiécées, son éternelle robe de pilou et son travail acharné ? Elle nous l'a dit, l'anatomie la rebute. Elle n'y peut appliquer, son esprit rêveur est léger, mais elle passe les nuits sur ses livres. Elle en est blême le matin, et c'est ainsi qu'elle a emporté son examen de première année. Vous croyez que je n'apprécie pas à sa juste valeur une femme de cette trempe qui, sans le sou, étrangère, timide, a su se tailler une telle personnalité et mordre à la vie de cette manière ? Seulement, je me tromperais bien si cette farouche travailleuse ne cachait pas une jeune fille vibrante et passionnée, prête à secouer sa cuirasse d'indifférence et de sauvagerie pour s'épanouir en femme complète, le jour où la nécessité de gagner durement sa vie disparaîtrait, la laissant libre d'être, à sa guise, amoureuse, épouse et mère, comme les autres. Et voilà, Thérèse, de quelle façon j'admets les femmes médecins. Certes, je trouverais malséant que les hommes refusent encore à celles dont ils n'ont pas voulu devenir les maris le droit d'exercer des professions où elles peuvent vivre indépendantes au même titre qu'eux. Mais si d'aventure il les épouse, que tout rentre dans l'ordre et que l'homme, se faisant le soutien du ménage comme il est juste, la femme s'abandonne tout entière à sa fonction souveraine, qui est de vivre pour son mari, pour ses enfants. Puis, regardant Thérèse, il ajouta « Je vous révolte, n'est-ce pas ?» La jeune fille était très pâle. « Non, reprit-elle avec douceur. Vous m'aimez égoïstement, comme font les hommes. Vous me demandez très simplement de me sacrifier à vous, d'immoler à votre amour tout ce que j'aime et tout ce que je suis. »
Bonjour, je suis Kylian Stangel, et pour la nuit de la lecture, je vous propose un extrait de mon roman « Chemin de table » que j'ai écrit en 2024 et que vous pouvez retrouver aux éditions Ramsay. Aux origines, le vent qui nous pousse, une mutation qui nous porte et l'envie de voir grandir nos enfants nous emmène en Touraine. Ici, en Val-de-Loire, je parie sur le futur. Mes fils seront-ils ici les réparateurs de ma propre histoire ou en seront-ils les séparateurs ? Découvront-ils le même millefeuille de vie que moi ? Alors, un morceau de bois flotté, ramassé au bord de la Loire, ou un joli caillou avec une forme bizarre, leur font déjà grandement plaisir. Je leur donne de l'amour, ils m'en rendent immédiatement, sans le garder pour eux. À quel âge, finalement, ces sentiments cessent-ils exactement ? Mes garçons réussissent à me donner l'impression que je suis unique au monde, que tout ce que je fais ou leur fais découvrir est formidable. Alors, les palaces où j'officiais dans ma jeunesse en qualité de serveur, leurs paillettes et leurs étoiles culinaires se sont envolées, ont quitté mon paysage. Aujourd'hui, la Touraine m'offre le challenge d'organiser des actions de valorisation du patrimoine gastronomique. Comme le chanteur tourangeau Ben l'Oncle Soul, j'ai pas la science infuse, le savoir-faire de Bocuse, j'ai pas le génie de Vinci, mais je sais que je dois agir. Agir par projet, agir pour rencontrer, agir pour construire, agir pour découvrir, agir pour promouvoir, agir pour transmettre. Tout en profitant de chacun ces petits moments, je continue de transmettre. Peu à peu, miette à miette, goutte à goutte et cœur à cœur, comme dit la tourangelle Zaz. Un verre de Vouvray moelleux à la main, en gardant le ciel qui recouvre la tour Charlemagne depuis la fenêtre de la salle à manger, juste avant le repas quotidien avec les miens. Un verre à apprécier doucement, tranquillement, avec modération. Je prends un verre? Non, le verre me prend. Il me transporte, il me transpose, transfère, transfigure, transfusion d'une fermentation, d'une infusion végétale, uvale. Entrer en quête de petits plaisirs sans être à la recherche du plaisir à tout prix, sans ascétisme ou discours grandiloquent, je déguste. Repas de famille avec mes enfants, un instant simple, qui crée à lui seul le souvenir, l'émotion, le plaisir, le bon côté des choses. Ah, les belles choses. Ces instants présents que l'on croit éternels sont furtifs et limités. Les enfants grandissent vite. Bientôt, le plus grand part retrouver ses amis sur la place Plume pour un apéro qui traverse la nuit, et le second quitte le jardin d'enfants des prébendes pour aller se tester dans les salles d'escape game et les murs d'escalade. Nous sommes tous les quatre autour de la table pour ce dîner. Support de diffusion des croyances dans le capital relationnel, espace de diffusion de la morale parentale et scolaire. Enjeu d'une construction, celle de la parentalité, d'un cercle du sang qui continue de s'appuyer sur une table ronde pour nourrir le corps et l'esprit, pour donner du lien entre les convives. Ronde comme les alliances échangées à la salle des mariages de l'hôtel de ville, ronde comme la miche de la boulangerie du coin de la rue, ronde comme le véritable nougat tour de chez Nicolas Léger, ronde comme la brioche de chez Lelon, ronde comme le bocal de rillettes de chez Ardouin, ronde comme une fouée, ronde comme le sel sur chair de chez Crichère. Au bout de la table, aucun coin saillant ne coupe le fil qui lie les membres de notre famille de cette table, vitale pour assurer la continuité familiale, visible dans les intérieurs de nos maisons, par sa présence matérielle et mobilière, la table, elle, permet à tous les membres de la famille de posséder toujours une place dans le cercle de cette intense sociabilité familiale. Les usages de l'alimentation ressemblent comme un capital social. Notre position assise à table est précieuse pour l'exercice matriarcal, patriarcal et toutes leurs injonctions. Le grand-père de notre cercle, à chaque repas d'anniversaire, conserve ce vieux rituel. Il s'assoit le premier, il pose son verre personnel, il y verse son bourgueil, déplie son couteau. Recherche de sérénité, d'harmonie, de conciliation avec les siens, avec les miens aussi, moi. Moi, avec les miens, et comme si j'étais avec le reste du monde, finalement. À mon quotidien, dans les rues comme au travail, je croise une sorte d'individu et des traits de caractère particuliers, des déterministes, le sens de l'endurance, le volontarisme, la pugnacité, la conviction, l'efficacité, des valeurs à tenter de conquérir également, durant les longues années tourangelles qui restent devant moi. Ne pas choisir la fuite vers Paris ou Bordeaux et leur lumière tellement tentante. Construire encore et encore des projets pour être mobilisé. Même si je suis incapable de dévier la Loire ou de déplacer des montagnes, l'organisation de projets culturels autour de la gastronomie devient mon lot quotidien. Au sein de l'Institut des cultures de l'alimentation à l'université, dans les murs de la vieille Villa Rabelais, sur le boulevard Béranger. Juger et apprécier les cultures à partir de mon propre regard ethnocentré, d'ancien bourguignon avec des racines alsaciennes devenu du Tourangeau. Je découvre ici le Navrouz ouzbek ou le Palof, le keshkek turc, le repas traditionnel mexicain, le washoku japonais, le kimchi coréen. Je mets en comparaison et en jumelage la bechelle tourangelle, le Sainte-Maure, la suprême de Géline, la silure du Martin Bleu. Et dans cette ville labellisée Cité de la gastronomie, naissent des principes de relations éthiques, du rapport à autrui, de l'interculturalité. Ah, s'acquiescer d'humanisme, expérience d'altérité. Conserver avec mon alter ego d'autres mondes culinaires et converser avec eux. Il y a aussi les découvertes des vins du bout du monde, de quelques vieilles bouteilles oubliées, tout droit sorties des ténébreuses caves troglodytes. Découverte des fromages du monde entier, lors du mondial des produits laitiers de Rochepinard, par tout événement des innombrables variétés de pain aussi, à la boulangerie de Velpeau, les légumes oubliés du marché de Slow Food, les races bovines incomparables à la Maison des Halles, autant de choses finalement qui me nourrissent le corps et l'esprit, tout autant que les discussions avec l'association L214. Mon univers professionnel est au quotidien avalé par l'excellence des cultures et des patrimoines alimentaires. Alors, la cinquantaine approche, je tente de repousser la vieillesse en me testant aux 10 km de tour. Mes baskets deviennent des sneakers. À mes oreilles, les récepteurs de mon appli Spotify. Mon Samsung me donne le tempo et mesure ma cadence. Alors je longe la Loire, je passe entre les gouttes de septembre, je traverse le pont de fil. Patience, constance, résistance, endurance, persévérance, tout ça pour contrer les premiers indices d'affaiblissement. Et au bout, une espérance essentielle. Dans la venue d'un futur continuel, ne pas abandonner en chemin. La détermination n'est pas abstraite, mais faiblie. Au bout du chemin, je cherche à créer une recette, mêlant différents ingrédients. Croyance, effort, transmission et relativité. La pensée positive est requise de toutes parts dans notre société. L'optimisme passe dans ma rue, dans mon salon, dans mon assiette, dans mon jardin. Une année est passée. Patienter durant toute cette année en regardant les saisons courir et en regardant depuis ma fenêtre les cerises se colorer dans l'arbre. Me retenir de ne pas les manger trop tôt, admettre que les merles auront tout mangé avant moi. Croire en ma capacité d'admettre, faire l'effort de m'en passer, relativiser en pensant à la joie des merles, et me souvenir qu'enfant, à la cabane de chasse, avec tous les copains de mon père, on mangeait du pâté de merle préparé par mon père.
Radio Campus Tours.
Les ultrasons ont cette propriété qu'ils font, comme tout, comme toutes les ondes, hein. Les ondes sont capables de faire des échos.
Radio Campus Tours.
Alors ça vaut quand même le coup de dire d'où ça vient ce mot écho. Écho était une nymphe. Puis elle a été séduite par Zeus, Et puis, l'épouse de Zeus, elle n'avait pas de bol, elle avait quand même dans la mythologie un compagnon pas très fidèle. Et au lieu de s'en prendre à ce Zeus volage, elle s'en est prise à la pauvre Écho et elle l'a condamnée à répéter les derniers mots qu'elle entendait.
99.5 FM.
Et puis après, Écho, elle est tombée amoureuse de Narcisse, donc là aussi, ça a été... Bref, c'est une histoire d'amour assez tristounette. Toujours est-il que Écho répète les mots qu'elle entend. Et voilà.
RadioCampusTour.com.
Et voilà, auditeur, auditrice, tu auras reconnu ce fantastique jingle qui annonce... la plupart du temps, très souvent, une émission en partenariat avec l'Inserm Grand Ouest. Alors, tu ne fais pas erreur, car après une pause musicale, eh bien, nous aurons droit à notre émission en partenariat avec l'Inserm mensuel. Il sera question d'une étude bien nommée Nébuflag. Je n'en dis pas plus pour le moment. Je rappelle que vous venez d'entendre des lectures proposées par nos complices dans le cadre de 1000 lectures d'hiver, deux extraits de Colette Hiver, lus par la direction départementale du livre et de la lecture, et une chronique surprise proposée par Kylian Stangel de l'IEHCA. Alors, avant de se lancer avec nos invités de l'Inserm, je vous propose une pause musicale. Nous allons écouter Sally Ford, I swear. On se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tour dans la Méridienne pour notre émission en partenariat avec l'Inserm Grand Ouest.
With all
c'était Sally Ford sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Cette chanson s'appelle I Swear. Alors, il ne vous aura pas échappé, auditeurs, auditrices, que aujourd'hui, nous sommes le 28 février, je vous le rappelais en début d'émission, mais si d'aventure certains nous rejoignent en cours de chemin, eh bien, je le dis à nouveau, 28 février, et c'est une journée particulière au CHRU de Tours, car se lance aujourd'hui l'étude Nébuflag. Nébuflag, c'est la troisième étape d'un projet de recherche plus vaste mené par un consortium de chercheurs européens appelé FAIR, F-A-I-R, et financé par des fonds européens, notamment Horizon 2020. Cette étude Nébuflag est la première menée chez l'homme sur volontaire sain, respirant spontanément dans le cadre de FAIR. L'un des objectifs est de tester la réaction humaine au traitement en cours d'élaboration, appelé Flamod. Il s'agit d'une aérosol thérapie à la flagelline dans le traitement de la pneumonie bactérienne résistante aux médicaments. Alors la pneumonie est un type d'infection des voies respiratoires qui provoque une inflammation des alvéoles pulmonaires. En résumé, ça empêche la respiration. Actuellement, la pneumonie est le troisième cause de décès dans le monde et elle touche particulièrement les enfants et les personnes âgées. Un facteur majeur de complications pour un traitement efficace, c'est l'émergence d'une résistance antimicrobienne où les bactéries responsables de la pneumonie sont résistantes aux antibiotiques utilisés habituellement pour traiter et éliminer l'infection. Comme quoi, les antibiotiques, c'est vraiment pas automatique. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime que les infections bactériennes dues à la résistance aux antimicrobiens deviendront la principale cause de décès dans le monde d'ici 2050. Nos chercheurs et chercheuses se mobilisent dès maintenant pour trouver des thérapies alternatives et efficaces. C'est là tout l'enjeu du consortium FAIR, F-A-I-R, qui étudie les thérapies qui pourraient être utilisées comme alternative au traitement antibiotique de la pneumonie. Nos experts sont aujourd'hui Valérie Gissot, médecin délégué du CIC, Centre d'investigation clinique du CHRU de Tours, et Antoine Guillon, médecin réanimateur au CHU de Tours. Il fait partie de l'unité INSERM U110, Centre d'études des pathologies respiratoires. Ils nous en disent plus sur l'étude Nébuflag qui, rappelons-le, se lance aujourd'hui même au CHRU de Tours.
Ce projet Nébuflag concerne des volontaires sains. Hein. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de pathologies, de pneumonie, tout ça. Mais la première étude chez l'homme, donc Nébuflag, va concerner vraiment des volontaires sains âgés de 18 à 55 ans. Et on fera justement, avant de recevoir le Flamod, des examens, notamment une radio pulmonaire, des EFR, quoi, un bilan biologique, pour être sûr que la personne n'ait pas de problème respiratoire et pas de problème infectieux en cours. Et après, une fois qu'on s'assure que tout va bien, le protocole consiste à recevoir une nébulisation de ce Flamod et une seule, il n'y en aura pas d'autre. Et le but après, c'est de surveiller, voir quelles sont les réactions. On n'attend pas de réactions sévères, mais les réactions qui peuvent être attendues, ce sont les mêmes que celles qu'on peut voir après un vaccin. C'est-à-dire un petit peu de fièvre, peut-être un petit peu de toux, mais voilà, des choses en tout cas bénignes et qui rentrent dans l'ordre rapidement. Donc cette première étude, c'est surtout ça, c'est surtout voir la tolérance de ce médicament chez des volontaires sains. Ce qu'on fera aussi, c'est de regarder un peu ce qui se passe en termes de réaction immunologique, parce que c'est ce qui nous intéresse. On fera des prélèvements, notamment dans le nez, pour savoir si l'immunité elle est bien stimulée comme on le souhaite ou pas. Voilà, mais à la suite à la fin de cette étude, on ne pourra pas dire si le Flamod est efficace ou pas. Après, ça sera l'objet d'autres études.
Alors, pour préciser quelques éléments de cette de ce protocole. Vous avez parlé de nébulisation. Alors, ça peut être nébuleux, justement, pour nos auditeurs. C'est quoi ? C'est un masque qu'on vous met sur la figure ? Comment ça marche ?
Exactement. C'est un masque qui couvre le nez et la bouche. Et donc, on respire à travers ce masque, donc le flamode qui est comme vaporisé, en fait, un système de vaporisation. Et le but, c'est qu'après, ça aille se déposer sur l'arbre respiratoire. Voilà, c'est absolument non douloureux. Hein, c'est comme vous inhalez, quand vous êtes enrhumé et que vous faites des inhalations. Voilà, c'est le même principe.
Inodore, indolore, vous l'avez dit, et ça dure combien de temps ?
Alors l'aérosol, il devrait durer quelques minutes, une dizaine de minutes, c'est ça, Antoine ? Une dizaine de minutes. Et puis après, l'administration est terminée. Il n'y a pas d'autres interventions de prévues.
Donc ça m'interroge sur les volontaires sains. Comment vous les recrutez ?
Sur le recrutement, on a au CIC une base de volontaires sains, donc de personnes qui sont inscrites pour participer à d'éventuelles études. Et aussi, vous savez, comme c'est une étude quand même pas... qui sort de l'ordinaire, hein, c'est une première administration d'un traitement qu'on suppose sans effet secondaire majeur, et c'est quand même une administration de traitement. Donc on fera appel aussi à des volontaires via les réseaux sociaux, via des recrutements sur l'affichage en interne du CHU. Il faut en tout 40 volontaires qui participent à l'étude.
Est-ce que vous ciblez ?
Alors il y a des critères, mais le niveau social ne rentre pas en compte. C'est l'âge, effectivement 18-55 ans, et de préférence, oui, qui habitent pas trop loin de Tours, parce que y a plusieurs visites, c'est pas en une seule fois, parce qu'il faut venir pour, comme je disais tout à l'heure, avoir des examens, être sûr que tout va bien, qu'il n'y ait pas de problème respiratoire. Donc, alors, on a des critères, comme on dit, d'inclusion et de non-inclusion. Donc, j'ai dit, il y a l'âge, mais aussi il y a le fait de ne pas être immunodéprimé, de ne pas être allergique. Voilà, il y a toute une panel de questions qu'on pose avant de proposer à la personne de participer à l'étude. Donc, après ces questions, une fois que la personne... Et on explique aussi avant à la personne les détails de toute étude. Qu'est-ce qui va être fait, les potentiels risques, voilà, tout ça est transparent et expliqué aux volontaires avant qu'il accepte de participer. Et une fois qu'il est, comme on dit, éclairé sur le protocole, s'il est d'accord, et bien là, on pourra signer, comme on dit, le consentement et commencer à participer à l'étude.
Est-ce qu'il y a une rémunération pour ce genre d'études ?
Alors, on ne parle pas de rémunération, on parle d'indemnisation pour dédommager effectivement du temps consacré et aussi des contraintes, hein, parce que y a l'administration du flamone, mais il y a aussi des prises de sang, des prélèvements nasaux. Voilà, donc pour toutes ces contraintes, il y a effectivement une indemnisation qui est prévue à la fin de l'étude. Et d'ailleurs, sur le plan national, il y a un fichier qui existe, et à chaque fois qu'un volontaire participe à une étude et qu'il y a une indemnisation, on est obligé d'inscrire le volontaire sur ce fichier. Et donc, il y a un plafond à ne pas dépasser. Et si la personne va dans un autre centre, qu'elle a dépassé le plafond, elle ne pourra pas participer à l'étude. Et on ne peut pas faire deux études en même temps, c'est-à-dire qu'on indique la période de participation à l'étude.
D'ailleurs, vous cherchez donc encore des volontaires pour cette étude. Donc si d'aventure, parmi nos auditeurs, certains veulent tenter, j'allais dire, leur chance, comment on s'inscrit ?
Alors, vous pouvez vous inscrire sur le site du Centre d'investigation clinique de Tours. Il y a un onglet justement pour les volontaires sains, et on peut remplir en ligne une fiche comme quoi on souhaite participer à une étude de recherche clinique. Et dans les commentaires, vous pouvez marquer que vous souhaitez participer à l'étude NebulFlag et on vous contactera.
C'est-à-dire que le début de l'étude est...
aujourd'hui.
C'est que ce n'est pas qu'on en recherche encore, c'est que l'étude n'a pas encore commencé. Elle commence aujourd'hui, 28 janvier.
Ce protocole, cette étude qui se lance aujourd'hui, 28 janvier, voilà, elle arrive après tout un cheminement, en fait, toute une histoire de ce projet. Peut-être voudriez-vous nous en dire plus sur les étapes qui ont précédé cette étude qui se lance aujourd'hui au CHRU de Tours.
Oui, alors c'est vrai que c'est un long fleuve, mais pas tranquille en fait. Il y a plein de rebondissements. Et on est sur ce projet depuis 2017 en fait. Et donc c'est un projet européen et donc qui est extraordinaire, hein, c'est qu'on arrive maintenant à travailler avec des équipes qui sont loin de nous. On a travaillé avec un centre en Irlande, un centre en Allemagne, un au Danemark, en Suisse et en France avec plusieurs centres aussi, puis il y a Lille, Paris et puis donc Tours. Donc, alors, tout le monde a travaillé sur ce projet donc depuis 2017 et donc les étapes ont été, on en a déjà parlé, Antoine en a parlé, c'est déjà la fabrication du Flamode, hein, donc toutes les étapes de savoir comment on fabrique cette flagelline, puis après comment on fait pour que ça devienne une poudre qu'on puisse diluer pour faire un aérosol. Voilà, il y a toute cette étape-là qui est très longue. Hein. On ne sait pas dès le départ comment on va pouvoir utiliser cette flagelline. Et d'ailleurs, on était parti sur un diluant classique comme du sérum physiologique. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que dans le sérum physiologique, ça ne se diluait pas comme on voulait. Donc c'est un autre diluant qu'on a utilisé. Et après, donc il y a toute la partie étude de toxicité. C'est ça. C'est très vite résumé. C'est ça qui est un peu déconcertant. De 5 ans résumé en quelques lignes. En
ouais.
Fait.
Non, mais ce qu'on peut quand même souligner, c'est que l'ensemble de tous les résultats générés, en fait, il y en a énormément. Sont mis dans un seul document qui est ensuite évalué par des agences indépendantes qui vont étudier tout le médicament et donner son feu vert pour l'administration chez l'homme. Donc, en l'occurrence, pour nous, c'était la NSM et ainsi qu'un comité d'éthique. Il y a une rigueur absolue, c'est-à-dire qu'ils ont accès à toutes les données de façon indépendante et ils ne sont pas là pour nous faire plaisir, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une sécurité par ce type d'expertise indépendante.
Vous avez évoqué, Valérie Gissot, l'Irlande, l'Allemagne. Qui fait quoi ?
Effectivement, chacun est spécialisé par un bout du projet. Hein, donc, pour reprendre l'exemple de la fabrication du Flamode, c'est au Danemark que ça se passe. Et après, donc, toutes les études de toxicologie, tout ça, c'est réparti sur plusieurs sites. Mais chacun fait une partie. Effectivement, il n'y a pas de centre qui travaille sur la même question en fait de l'étude. C'est un gros travail de chef d'orchestre, effectivement, pour que chacun sache ce qu'il faut qu'il fasse exactement et qu'il y ait une coordination, qu'il y ait une logique pour relier chaque travail de chaque équipe en fait. Et ça, le chef d'orchestre, c'est Jean-Claude Sirard à Lille et qui a fait un travail remarquable parce que c'est un gros challenge que effectivement, puis penser à tout quoi en fait, ne rien oublier ou n'oublier aucune étape. Donc c'est un gros travail. Ouais.
Exactement. Pour rajouter quelques informations aussi. Donc il y a une coordination qui est un travail fou qui a été fait par Lille. Le Danemark fournit la molécule et a fourni la même molécule à tous les centres de recherche pour que tous les résultats soient homogènes partout. Et puis les données ont toutes été analysées par une équipe à Berlin, qui est une équipe de mathématiciens, de modélisateurs, qui ont pu en fait analyser toutes ces données aussi et donc rassembler ces informations. Et nous, à Tours, on a été identifiés pour notre capacité à faire de la recherche translationnelle et donc d'être capable d'aller chez la première fois chez l'homme. Et donc, on peut faire un peu cocorico, hein, parce que ça va être une première mondiale à Tours. On peut tous s'en réjouir et nous, on est ravis en tout cas de relever ce challenge.
Et l'étude sera monocentrique, c'est-à-dire que c'est vraiment que Tours. Il n'y a pas d'autres centres ni en France ni partout ailleurs dans le monde.
Mais sur quels critères vous vous basez pour dire c'est efficace, on peut aller à l'étape suivante ? Ou c'est pertinent, c'est pas dangereux ?
Alors, ben, pour certaines étapes, c'est par exemple d'avoir réussi à produire le Flamode. Mmh. Donc, ça, ben, le critère, c'est d'avoir obtenu le Flamode et qui va pouvoir être administré avec un diluant. Après, les autres étapes, ça a été de vérifier effectivement qu'il n'y ait pas de toxicité trop importante, quoi, qui pourrait pas faire qu'on puisse l'administrer à l'homme. Et il y a aussi toutes des étapes pour comprendre, savoir qu'est-ce que ça stimule, est-ce que ça stimule bien ce qu'on souhaite, quels sont aussi les marqueurs que l'on peut suivre chez l'homme pour savoir si le traitement fait bien la réaction qu'on souhaite ou pas. Alors c'est plus des résultats plutôt que des objectifs, je dirais, pour mieux comprendre après, pour mieux passer à l'homme, à l'administration à l'homme. Alors déjà, la première chose qu'on regarde, c'est savoir comment les participants ont réagi. Ça, c'est vraiment le critère, c'est la sécurité. Alors, on n'espère pas, c'est très peu probable, mais si jamais il y avait un critère de sévérité, ben, terminé, on ne va pas plus loin, et même on finit pas l'étude. Hein. C'est très protocolé, c'est-à-dire qu'entre chaque, on ne fait pas toutes les administrations le même jour, par exemple. C'est un jour, une administration, on attend. On attend plusieurs jours avant de savoir si on passe à la deuxième administration. Et si jamais il y a des réactions, même si elles sont minimes, on a des ABAC pour vérifier est-ce qu'on passe bien à la troisième administration ou pas. Et si dans ces ABAC, on voit que il y a une réaction un peu plus forte que ce qu'on pensait, à ce moment-là, c'est des experts extérieurs à l'étude qui donnent leur avis pour savoir est-ce qu'on continue ou pas les administrations. Hein, donc, si à la moindre alerte, l'étude elle peut être arrêtée et elle est surveillée par des experts extérieurs à l'étude. Pas avec cette étude, voilà, c'est vraiment axé sur la sécurité et pas encore sur l'efficacité. Il faut d'abord qu'on s'assure que c'est safe avant de savoir si c'est efficace. Est-ce que pour montrer que c'est efficace, il faut beaucoup plus de participants ?
Et donc, il y a aussi un groupe témoin qui va recevoir un placebo ?
Alors, ce groupe-là sert de contrôle, parce que si on a les mêmes effets secondaires chez les personnes qui ont le placebo et ceux qui ont le Flamode, on pourra dire que probablement, c'est pas le Flamode, quoi. Il faudra qu'on revoie notre copie, mais c'est probablement pas la molécule qui est en cause.
Donc, c'est-à-dire que dans tout protocole de recherche, il y a toujours un groupe témoin. C'est obligatoire ?
Non, c'est pas obligatoire. Ça dépend du design de l'étude. Là, on a choisi de le mettre, mais on aurait. Parce qu'en plus, il y a un dispositif aussi en plus. C'était intéressant de voir ce qui se passait aussi sans la molécule.
En plus, il y a certains paramètres qu'on mesure qui sont un peu subjectifs. Par exemple, on pourrait imaginer les maux de tête, etc. Donc, c'est important d'avoir aussi sur le ressenti de patients qui n'ont pas reçu la molécule. À titre d'exemple, quand les tout premiers vaccins contre le Covid ont été développés, il y avait des groupes placebo. 10% d'entre eux rapportaient des maux de tête alors qu'ils n'avaient pas reçu la molécule. Et donc en fait, c'est pas que les gens sont des menteurs, hein, c'est que on se convainc parfois de choses, donc c'est très important d'avoir ce type d'information aussi. pour la recherche de doses, hein, il faut bien rappeler que on a beaucoup d'informations en amont sur des modèles in vivo, des modèles précliniques. Donc on connaît les doses où il n'y a pas d'effet secondaire observé. À partir de cette dose-là, on les applique chez l'homme avec des calculs qui sont assez complexes. Et puis une fois qu'on a cette dose-là, on met encore 10 fois moins pour faire les premiers tests chez l'homme. Et on a une fenêtre aussi maximum qu'on ne dépasse pas. Donc on cherche une dose entre deux valeurs dont on sait qu'elles sont safe en théorie. Et c'est ce qu'on va confirmer par cette étude de phase 1.
Et si d'aventure, parmi nos auditeurs, quelqu'un souhaite retrouver tous les résultats que vous avez obtenus sur les études précliniques, donc avant celles qui se lancent aujourd'hui, 28 janvier, où est-ce qu'on peut trouver ces résultats ?
Alors, je ne sais pas comment vous répondre simplement. Alors, par exemple, le dossier qu'on a donné à la NSM, il fait à peu près 150 pages, donc c'est compliqué de divulguer tout ça. Il y a un site web qui est créé qui fait écho avec ce consortium européen qui s'appelle FAIR, F-A-I-R. Donc, si on met FAIR Flamotte sur Google, on devrait tomber dessus.
Oui, à l'heure actuelle, il n'y a pas, entre guillemets, de vulgarisation du projet. Les informations sont disponibles, mais en anglais et scientifiques, donc pas forcément accessibles à tout le monde.
Là, donc, je pose cette question-là parce que, de fait, même si on a accès à ces documents, encore faut-il comprendre de quoi ils retournent. Mais si je pose cette question, c'est parce que une étude comme celle-là est financée avec de l'argent, disons, public, ou européen, ou français, ou que sais-je, est-ce que ça induit le fait que les résultats doivent forcément être publics?
Oui, alors là, pour le coup, c'est très clair. Nous, on s'est engagé à rendre ces résultats publics, c'est-à-dire que on a enregistré l'étude avant qu'elle commence et on s'est engagé à mettre les résultats sur une plateforme publique. Il en existe plusieurs. Hein. En l'occurrence, la plus classique, c'est Clinical Trial. Et donc, ces résultats qui sont payés par nos deniers via l'Europe seront publics et pourront être utilisés. Oui.
D'ailleurs, puisqu'on mentionne les sous de l'Europe, comment est financée cette étude, celle qui se lance aujourd'hui ?
Alors, l'étude est financée par le projet européen dans son ensemble. Hein. Il y avait une enveloppe globale qu'il a fallu partager entre tous les acteurs. Et donc, c'est le projet européen qu'on appelle H2020. Mmh. Et donc, c'est effectivement de l'argent public. Chacun, en fonction de ce qu'il fait dans le projet, a les sous nécessaires pour réaliser ce projet.
H2020, c'est pour Horizon 2020. Donc, c'était un appel d'offres européen extrêmement compétitif, hein, où l'Europe s'était rassemblée pour donner des grosses enveloppes à des gros consortiums. Voilà, je ne sais pas si on aura le droit de le dire ou pas, mais pour que les auditeurs se rendent compte, hein, c'est une enveloppe de 10 millions hein, qui a été répartie entre toutes ces structures européennes pour pouvoir faire émerger cette molécule et dont on espère pourra être bénéfique à la population in fine.
Donc sur un projet comme celui-là, donc avec un financement européen, on va dire que le projet reste dans la sphère universitaire. Alors pourquoi c'est précieux quand on est chercheur ?
En fait, c'est précieux d'être capable de faire sortir les résultats de nos laboratoires et de ne pas faire de la recherche pour la recherche, hein, mais qu'il y ait bien une translation et au final un bénéfice pour les patients futurs. Quoi. Et donc ça, c'est très précieux. C'est assez rare que ce soit un réseau de chercheurs académiques qui portent le développement de molécules. Hein, vous savez, dans le R&D, il y a recherche et développement. Souvent, l'académique fait le R et le D est plutôt fait par l'industrie. Là, c'est quand même assez rare pour le souligner qu'on soit capable d'aller jusqu'à ce qu'on appelle la first in human, la première fois chez l'homme, avec ce réseau de chercheurs académiques.
Est-ce qu'on tombe dans des questions d'indépendance de la recherche aussi, sur cette idée d'un financement où des chercheurs ont la main, disons, sur le début et la fin du projet ?
C'est une bonne question. Je ne sais pas si on peut répondre. Tout ce qu'on peut dire, c'est que nous, on n'a aucun conflit d'intérêt. C'est-à-dire que l'étude soit négative, positive, etc. Nos vies financières ne vont pas changer, quoi. Et ça permet quand même d'être assez serein dans la réalisation de ce type d'études quand on n'a pas une implication personnelle immédiate en fait. Évidemment, on a très à cœur que le projet soit un succès parce que, comme disait Valérie, ça fait des années qu'on y travaille. Mais en tout cas, on n'a pas de conflit d'intérêts financier à sa réussite ou pas. Et ça, c'est vrai que ça donne une indépendance d'esprit qui est assez sympa.
Qu'est-ce que vous en pensez, Valérie Gissot ?
Oui, tout à fait. Et ce qui est vraiment stimulant, c'est oui, de travailler main dans la main et de partir, comme on dit, de la molécule à l'administration, à l'homme. C'est la première fois que ça arrive. Et c'est très motivant parce que, du coup, on est impliqué dans toutes les étapes. Et avec Antoine, à chaque fois, on nous demandait à nous la dernière étape du projet. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Des fois, on ne savait pas répondre parce que ça n'arrivait pas encore à l'homme. Donc, mais en tout cas, c'est vraiment très, très stimulant d'être à l'origine d'un projet. Ça arrive à l'origine d'un développement de médicaments, quoi. C'est de tout comprendre et puis aussi de voir quelles sont toutes les difficultés aussi qu'on ne se rend pas compte quand c'est parce que l'industrie fait très bien son travail par ailleurs et puis heureusement qu'il y a l'industrie pour développer les médicaments et c'est quand on travaille avec eux tout est déjà prêt en fait et là de participer à la fabrication du médicament et d'arriver à l'administration, ça fait découvrir tout un monde que, en tout cas, moi, personnellement, je ne connaissais pas, quoi. Donc, c'est très intéressant. On ne pourrait pas faire ça pour tous les médicaments, mais de le faire pour certains comme ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Comment on pourrait conclure cette émission ?
Non, mais c'est ce qui a été dit au début, là. Alors, on va croire que je crâne à fond, là. Mais je crois que c'est hyper important de souligner que c'est... que c'est rare, que c'est une première mondiale et que la recherche est extrêmement stimulante et qu'on est simplement très fiers en fait, d'être au bout de ce projet, quelle qu'en soit la suite. Le fait que l'administration soit faite à Tours, le seul site en Europe, c'est quand même, ça démontre qu'il y a une forme d'excellence dans notre recherche quand même. Je crois qu'il faut qu'on puisse le dire, en être fiers au CHU de Tours, avec les laboratoires INSERM qui sont associés. C'est possible que parce qu'il y a ce microcosme de médecins et de chercheurs qui travaillent en s'entendant bien, en se respectant. Et c'est pas partout pareil, quoi. Donc je pense qu'il faut qu'on en soit conscient et fier.
Voilà pour votre mot de la fin. Quel sera le vôtre, Valérie Gissot ?
Le mien, ça rejoint un peu celui d'Antoine. Ce que je retiens de ce projet, c'est vraiment la collaboration. Et dès le départ, quoi, c'est de travailler avec des parce qu'on se connaissait pas au départ, comme en tout cas je connaissais personne à part Antoine, mais sinon tous les acteurs européens on n'en connaissait pas, quoi. Et d'avoir réussi, parce que en plus le challenge ça a été de faire toutes ces étapes en 5 ans. Bon, on a eu un an de plus parce qu'il y a eu la Covid qui est intervenue, mais faire tout ça en 5 ans et avec des collaborateurs qu'on ne connaissait pas, qu'on a appris à connaître, à travailler ensemble, et pour arriver à faire cette première étude à l'homme, c'était une aventure extraordinaire, quoi. Vraiment très passionnante.
En tout cas, cette émission sera évidemment à réécouter à volonté sur notre site internet, radiocampustour.com, et je pense qu'on peut aussi remercier Jean-Michel Escoffre et Pierre Da Silva, puisque c'est aussi... grâce à eux que ces émissions mettant à l'honneur les chercheurs et chercheuses INSERM sur nos ondes existent. Merci beaucoup à vous d'avoir consacré ce temps à cette émission. Et on va finir par une pause musicale. Alors là, ça va être votre choix, Antoine Guillon. Qu'est-ce qu'on écoute ?
On écoute Stick Figure World on Fire. Je sais, ça n'a aucun lien, hein, parce que le monde en feu, c'est un peu triste, mais voilà.
Merci encore à vous deux et au revoir. Valérie Gissot et Antoine Guillon nous présenter l'étude Nébuflag qui se lance aujourd'hui même au CHRU de Tours. Cette étude, pour rappel, évalue la sécurité d'une administration à dose unique de flagelline nébulisée chez des volontaires sains. Le consortium FAIR, F-A-I-R, vise à évaluer le potentiel de la flagelline nébulisée, le Flamotte donc, comme un complément au traitement conventionnel de la pneumonie. Parmi les prochaines étapes, la flagelline nébulisée est-elle un complément économiquement viable, adaptable et acceptable au traitement antibiotique conventionnel de la pneumonie dans les systèmes de soins de santé européens? Cette future étude devrait s'appeler Adviflag, mais n'anticipons pas trop et remercions encore nos invités et l'INSERM Grand Ouest de nous permettre de vous présenter ce projet de recherche exceptionnel qui se lance, rappelons-le, aujourd'hui même au CHRU de Tours. Donc, je vous rappelle, auditeurs, auditrices attentifs, que vous pourrez réécouter cette émission aujourd'hui même à 17h sur nos ondes et la retrouver en podcast sur notre site radiocampustours.com. Et avant de laisser la place à la rediffusion de notre émission, sortez, je vous propose une nouvelle pause musicale. Et là, vous allez voir, c'est tout autre chose que le choix de notre invité, une musique que vous reconnaîtrez. Parce que, je dois l'avouer, et oui, moi j'aime bien Dalida, ça va faire hérisser nos programmateurs et programmatrices musicaux, mais je l'avoue. Donc, une chanson qui préexistait, disons la reprise par Dalida. Je suis sûre que vous allez trouver de quoi il s'agit. Il me reste à vous souhaiter la meilleure journée possible, à l'écoute évidemment de nos excellents programmes.
عينك بكى وتظهر حزين مشغول البال جافك النوم دعت حياتك والأمال وحدك ما حطر تمشي في الشارع والجوال وكل نهار تنظر الشباك كحالة الانظار وانت في حبها مقهور وقربها متاملو لكن الحب يا مغرور صعيب وانت ما تقدر له يبكى وتظهر حليه مشغول البال جافك النوم دعت حياتك بالأمال وحدك ما حصار تمشي في الشارع والجوال وكل نهار تنظر الشباك كحالة الانظار وانت في حبها مقهور
بامينو بامينو
وقربها متاملو
بامينو بامينو
لكن الحب يا مغرور
بامينو بامينو
صعيب وانت ما تقدر له اضحك والعب بالماندولينو وسلي بامبينو الحنك تعجبني احنينا وتطربني وغني غني بصوت حنين وسلي بامبينو اليوم راك مهني على المندولين تغني انت بشعرك مثل الذهب
بامينو بامينو
روحي يا صبي ما زلت صغير
بامينو بامينو
مع الصبيان مشيت العاب
بامينو بامينو
الحب اللي هو كبير لكن الحب يا مغرور يا مغرور صعيب وانت ما تنسى